France Musique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureuse, un peu troublée et en tantinée émue de vous retrouver en ce lundi 26 août à 17h sur France Musique. Je vous invite à prendre place à bord du van Beethoven, le van notre moyen de transport, et Beethoven, le compositeur qui va nous accompagner tout au long de cette saison, car en 2020, nous fêterons le 250e anniversaire de sa naissance. Beethoven qui nous servira aussi de prétexte, toujours pour écouter, découvrir et apprécier la musique que nous aimons. J'espère que vous êtes prêts, car le van Beethoven démarre tout de suite sur France Musique.
Thank you.
premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan, un enregistrement de 1962 que notre invité affectionne tout particulièrement, notre invité Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Aurélie Moreau, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver, pas longtemps aujourd'hui, mais enfin bon, c'est un choix que j'ai fait. Je remercie notre cher directeur, toute la direction d'ailleurs de France Musique, l'administration, m'avoir permis de me reposer un peu après 50 ans de carrière et puis de vous retrouver quand même le dimanche à partir de 14h, tous les dimanches.
En tout cas, je suis très heureuse que vous soyez là à mes côtés pour cette première émission. Merci, c'est un immense honneur que vous me faites. Vous avez dirigé cette symphonie, quand on l'écoutait tout à l'heure, vous en parliez avec passion.
Oui, oui, parce que tout le monde croit que c'est une rengaine, j'ai entendu ça. C'était terrible l'autre jour, quelqu'un m'a dit « Oh, c'est une rengaine, la pince à linge, etc. » Bon, c'est très drôle cette plaisanterie-là des frères Jacques, mais c'est un monstre, surtout c'est l'expression incroyable de quelqu'un qui est fou de douleur par moment et qui a un désespoir très fort. Il y a l'espoir, le deuxième thème, c'est l'amour, ce qu'il n'a pas toujours trouvé, qu'il espère un jour conquérir. Il y a, en 7 minutes et demie, dans cette version-là, il y a absolument tous les sentiments, il y a une sorte de furie. C'est un manifeste au-delà d'une symphonie, tout simplement. D'ailleurs, la forme est bousculée, parce qu'on a ces quatre notes, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est pas vraiment un thème, et c'est devenu très célèbre grâce à la BBC pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le ta-ta-ta-ta, en morse, ça veut dire V, c'est le V de la victoire. Donc c'est mythique, mais pas seulement pour cette histoire de morse, c'est aussi parce que ce vieux morse de Beethoven, ce vieil ours, là, nous a livré son cœur d'une manière invraisemblable et inimitable.
Et vous parliez de cette version, en particulier cette version d'Herbert von Karajan.
Oui.
C'est votre version de chevet, cette
On a tout dit sur cœur. Karajan. Oh, j'en ai entendu des centaines de versions qui sont très très bien aussi, mais celle-là, elle est formidable parce qu'on parle toujours de Karajan pour des raisons un peu annexes, politiques ou autres. Et là, simplement, je veux saluer un chef d'orchestre qui est vraiment incroyable parce que ça n'est pas facile du tout. Quand il y a le retour du thème qui fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ti-ti-ti-ta, essayez de tenir un orchestre, vous allez voir, c'est pas si facile. On se fait des frayeurs quelquefois avec des petites choses comme ça. Et c'est une symphonie qui est très morcelée, c'est-à-dire ces petits motifs là qui s'ajoutent, qui se courent après. Et bien ça donne un ensemble qui doit être cohérent et tenir tout ça. Je peux vous garantir, c'est une des œuvres les plus difficiles. Les musiciens d'ailleurs disent que dans la musique en général, la musique symphonique, il y a rien de difficile sauf la 5e de Beethoven et le premier mouvement qu'on vient d'entendre et le Sacre du printemps de Stravinsky.
Et vous en savez quelque chose, vous l'avez dirigé. Comment vous êtes venu à la direction d'orchestre?
Un peu par hasard, parce qu'un jour, je m'étais fait mal au poignet, donc je jouais du violoncelle, et puis un ami qui s'appelle Laurent Petit-Girard, compositeur, et maintenant très important personnage à l'Académie des Beaux-Arts, secrétaire perpétuel, avait, avec d'autres amis, organisé une croisière sur le France, c'est-à-dire le Norway qui a été rebaptisé France pour l'occasion. On avait repeint les cheminées, on avait mis le drapeau tricolore, cocorico, et puis il m'a dit, t'es pas plus bête qu'un autre, tu joueras pas de violoncelle, mais tu vas pouvoir diriger, il y a un orchestre de jeunes, et voilà, et puis j'ai essayé, puis ça a marché comme ça. Puis une autre fois, à l'anniversaire de Rostropovitch, en 87, quelqu'un manquait pour diriger un ensemble de violoncelle, une œuvre de Davidov que personne ne connaissait, je me suis lancé, et puis ça a marché contre toute attente. Enfin, je veux dire que il y avait tellement d'amis en face de moi, tous les violoncellistes de grand talent étaient là pour faire plaisir à Rostro, comme on disait avec affection. J'ai dirigé comme j'ai pu sans avoir appris, ça a marché. Après, j'ai travaillé pour conquérir ce métier.
Et au-delà de la direction d'orchestre, on vous connaît en tant que producteur, comme en tant qu'animateur sur France Musique. On aura la joie désormais de vous retrouver tous les dimanches entre 14h et 16h pour un Carrefour de l'Odéon hebdomadaire désormais. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer nos auditeurs? Et cette émission mythique, le format reste le même?
Oui, oui, absolument, avec une petite variante que m'a demandé notre cher Marc Vouinchet, c'est-à-dire de faire une dernière partie d'une demi-heure qui serait podcastable assez facilement, parce qu'une demi-heure, c'est plus facile que 2 heures quand même, avec un épisode un peu intime, un peu personnel, que j'ai baptisé cordes sensibles, tout simplement. Alors évidemment, je triche un peu parce que les cordes, c'est les instruments que je connais si bien. Enfin, le violoncelle, je connais et puis un peu moins, mais quand même pas mal l'alto et le violon, les contrebasses. Mais dans un piano, il y a aussi des cordes, donc j'ai un peu élargi mon champ. Et puis, donc les cordes frappées, les cordes pincées, la guitare, la harpe et les cordes frottées, bien sûr. Et peut-être que je vais oser quand même glisser quelques cordes effleurées par le souffle de l'âme, les chanteurs, les cantatrices. Mais je verrai ça avec Marc Vouinchet s'il m'autorise cette digression. On verra.
Et en vous écoutant pendant toutes ces années, Frédéric, ce qui m'a frappé, c'est votre manière de rendre la musique accessible. On sait qu'elle peut intimider, cette musique classique, entre guillemets. Pourquoi il ne faut pas en avoir peur de cette musique,
Frédéric? Parce que c'est un bienfait. Est-ce qu'on a peur, je ne sais pas, qu'est-ce qui nous fait du bien dans la vie, de l'océan? Il faut en avoir peur un peu, l'océan, mais si on s'en passe, on est vraiment privé de quelque chose d'énorme. C'est dangereux, bien sûr, mais la musique n'a jamais fait de mal à quiconque, ça n'a jamais rendu sourd, pas la nôtre, en tout cas la nôtre, ce que je dis nôtre, c'est-à-dire ce que j'exprime comme nôtre, c'est celle qu'on passe sur France Musique. C'est pas de la musique qui est diffusée à 120 décibels qui peut vous abîmer l'oreille interne. Nous, on propose la musique classique est proposée, elle n'est pas imposée. Donc c'est une somme de trésors. Beethoven est mort à 56 ans, j'ai honte d'être encore là moi à 67, parce que lui, il a donné des merveilles au monde. On pense que Schubert, lui, est encore, on le sait, est mort à 31 ans, il aurait pu donner peut-être encore d'autres merveilles. Mozart à 35, etc., etc. Donc, ils ont tout donné pour créer ces chefs-d'œuvre et ces trésors. Pourquoi s'en passer? On peut s'en passer, mais c'est tellement moins bien.
Évidemment, on ne va pas s'en passer cet après-midi sur France Musique, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes à bord du Van Beethoven. Thank you. Troisième mouvement du triple concerto en do majeur opus 56 de Beethoven, l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo, dirigé par Armin Jordan, Pierre Amoyal au violon, Anne Kefelec au piano et Frédéric Lodéon au violoncelle. Frédéric Lodéon qui nous honore de sa présence cet après-midi sur France Musique. J'avais envie de vous demander, très cher Frédéric, quel souvenir vous gardiez de cet enregistrement en compagnie de ces interprètes-là?
Des amis, parce que Pierre Amoyal, c'est mon grand frère en quelque sorte. Il est revenu d'Amérique, il travaillait avec Heifetz, il avait déjà un prestige extraordinaire, il a été était vraiment très affectueux à mon égard. Il m'a entraîné à Lausanne. J'étais professeur pendant 3 ans à ses côtés. Il était prof de violon. Donc on a eu de grandes époques comme ça de musique de chambre, tout comme avec Augustin Dumay, d'ailleurs, autre grand violoniste qui est devenu chef d'orchestre en plus. Et évidemment, Anne Kefelec, on a fait beaucoup de choses aussi. Tout le monde adore Anne à juste titre. En fait, elle avait remplacé au pied levé, à main levée, on peut dire, il y a les mains et les pieds sur le piano, bien sûr, pour les pédales, les pieds, Maria Joan Pires, qui avait eu un problème à la main droite. Et au dernier moment, Anne Kefelec était arrivée et ça avait donné cet enregistrement dont on est encore assez content. Ça passe assez souvent sur YouTube. Alors on apprend qu'au Japon, on l'aime bien. Bon, c'est incroyable maintenant la propagation des œuvres à travers Internet, bien sûr.
C'est tant mieux.
Bah, je regrette rien. C'est en 78. On changerait pas grand chose. C'est terriblement difficile pour le violoncelle parce que Beethoven voulait écrire un concerto pour violoncelle. Il a été dégoûté par un certain Romberg, violoncelliste, certes assez sérieux, mais pas très marrant, qui lui a dit, oh non, tu sais, pas la peine d'essayer parce que moi j'ai déjà écrit 10 concertos et ils ont beaucoup de succès. Et Beethoven s'est laissé impressionner. Il a renoncé à écrire un concerto pour violoncelle. Il nous a donné ce chef-d'œuvre un peu différent, mais où le violoncelle a toujours une place très importante et très difficile à tenir.
Et vous nous disiez, c'est très difficile, effectivement, oui. cette œuvre. Comment on la travaille au sein de cet ensemble? Est-ce que c'est difficile de tenir cette place dans un trio,
oui,
plus face à l'orchestre? Comment on travaille ça?
Alors, mon maître Rostropovitch disait toujours, dans la vie, il faut d'abord grandir et ensuite on peut se marier. Ça veut dire que de son côté, il faut travailler sa partie instrumentale, il faut grandir et après on se marie, c'est-à-dire on va se mettre avec les autres, on va essayer de s'entendre à 3 d'abord, effectivement, la petite cellule, et ensuite retrouver tout le groupe, l'orchestre, avec le cher Armin Jordan qui était tellement sympathique, tellement musicien, surtout avant tout musicien. Il disait toujours, des chefs d'orchestre, il y en a plein, mais des chefs musiciens, c'est plus rare. Et c'est tout à fait vrai. Ici, avec l'Orchestre Philharmonique, il a été très très apprécié parce qu'il arrivait comme ça, il était au Café des Ondes à côté, il avait le trac. Je lui disais, mais pourquoi t'as le trac? Il t'adore, les musiciens. Il dit, ah, c'est comme ça, et après des années. Puis il arrivait devant l'orchestre, il disait, bon, alors je sais pas si j'ai fait des progrès, mais on va essayer quand même. Avec son accent suisse, tout le monde éclatait de rire et c'était gagné.
Et comment vous l'avez découvert, ce triple concerto, en le jouant avec ses interprètes, ou vous le connaissiez avant?
Oh, j'avais entendu déjà, mais jamais travaillé en détail. C'est-à-dire, c'était vraiment quelque chose de très difficile. Je rappelle que la partie de violoncelle va dans l'aigu. Et on dit toujours que c'est quand ça va dans l'aigu que ça devient grave, vieille plaisanterie, mais enfin c'est vrai. C'est-à-dire, le violoncelle est toujours dans les positions très très périlleuses. D'ailleurs, le début de ce final, moi j'appelle ça le couloir de la mort, quand il y a le sol répété, une note da 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 da. Et d'ailleurs, avec Armin, on a eu une petite anicroche parce qu'il m'a dit, ton sol est un peu bas. J'ai dit, Armin, non, devant l'orchestre. Et puis il répète, alors j'ai dit non, puis je m'énerve un peu parce que je rappelle que c'est très difficile, donc on est concentré, on veut pas. Et on va écouter dans la cabine, et j'ai dit, tu vois, tu entends mon sol. Et il dit, oui, c'est vrai, t'as raison, mais tu devais me parler plus gentiment quand même devant l'orchestre. Et là, je reconnais que devant l'orchestre, j'aurais dû être un peu plus doux. Mais enfin, il y a la tension aussi, mais on s'aimait tellement qu'il m'a vite pardonné.
Bien sûr, et le résultat est là.
Le sol, il est toujours bon, voilà. Alors.
Le Von Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
17h30 sur France Musique, merci d'être avec nous. On écoute tout de suite le scherzo de la sonate pour violoncelle et piano, opus 69 de Beethoven, par Xavier Philips au violoncelle et François-Frédéric Guy au piano. Thank you. Le scherzo, deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano en la majeure de Beethoven par Xavier Philips au violoncelle et François-Frédéric Guy au piano sont les interprètes que vous souhaitiez entendre cet après-midi sur France Musique, Frédéric Lodéon. Alors pourquoi eux? Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans leur interprétation?
Alors François-Frédéric Guy, on sait que c'est un beethovénien fondu, il adore Beethoven, il en a les cheveux quelquefois d'ailleurs, très bouclés. Et puis François-Frédéric, il nous a donné tout le répertoire pratiquement, les concertos, les sonates, et c'est vraiment un maître dans ce domaine. Il dirige même d'ailleurs du clavier ses concertos. Xavier Philippe, il joue tout très bien. C'est un magnifique violoncelliste, très apprécié de Rostropovitch d'ailleurs, qu'il a emmené jouer en Amérique. Et puis, il y a ce scherzo qui est une chose étonnante parce que j'ai vu le manuscrit. Il est raturé ce manuscrit. Beethoven s'est acharné, il a changé la nuance. Vous avez entendu que le thème, il commence piano, pianissimo, et puis brusquement, il y a une sorte de coup de gueule. On arrive dans le fortissimo et ça, Beethoven l'a changé. Et il était vraiment quelquefois comme un combat battant vis-à-vis de sa propre musique, de son propre génie. Les partitions ne sont pas limpides comme chez Mozart, où il y a très très peu de ratures. Chez lui, c'est une souffrance. On voit qu'il y a eu une bagarre titanesque entre lui-même et son génie. Et j'ai été très étonné de voir cette nuance changée par Beethoven. C'est-à-dire, il fait et puis brusquement, le fortissimo arrive. Et ça, il l'a voulu après avoir hésité. Il voulait pas la nuance piano qui était au départ prévue, qui était celle d'ailleurs qu'on utilise encore aujourd'hui. On a tort. Il faut vraiment donner ce coup de gueule beethovenien. Et c'est ça qui nous montre la personnalité du type, qui n'était pas facile. Je l'ai déjà dit, un ours ou, je sais pas, quelqu'un d'assez difficile à gérer, on le sait bien. C'était sa nature, c'était aussi d'ailleurs son personnage. Peut-être qu'il se servait de ça aussi pour se faire respecter. Mais en tout cas, il avait cette nature éruptive, cette nature volcanique qui ressort dans ce scherzo avec le passage idyllique, le passage chanté. On dirait deux corps qui chantent avec les doubles cordes du violoncelle. Enfin, c'est indescriptible. Vous avez toute la saison pour nous expliquer tout ça, Aurélie.
Oui, j'espère. Vous pouvez compter sur moi.
Oui, c'est sûr.
Mais vous allez nous expliquer aussi deux, trois petites choses. Vous, en tant que violoncelliste, Frédéric, à quel moment on aborde l'œuvre de Beethoven dans la vie d'un violoncelliste?
Pas trop tôt quand même, parce qu'il faut d'abord faire les exercices. Faut d'abord, on commence Jean-Sébastien Bach, ça paraît plus facile, mais ça ne l'est pas. Parce que Bach, au début, c'est simple. Et puis après, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que pour arriver à jouer aussi bien que les grands maîtres, ben, il faut continuer. Puis on se pose des questions terribles, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On a perdu le manuscrit de Jean-Sébastien Bach lui-même, alors qu'on a beaucoup de manuscrits de Beethoven. Donc Bach, on a le manuscrit de son épouse, Anna Magdalena notamment, et puis de quelques élèves, mais enfin on ne sait pas, on est dans une sorte de brouillard merveilleux, on cherche le Graal en quelque sorte, et c'est une exploration sans fin. Chez Beethoven, il y a les partitions, il y a les manuscrits pour la plupart, et puis on connaît le personnage beaucoup mieux, parce que Bach, il faudrait dire, on a peu de témoignages de lui, de son personnage, on voit à peu près quand même, c'est pas non plus un personnage très simple, mais enfin il était plus pondéré quand même, mais une forte nature aussi. Beethoven, il y a plein de témoignages parce qu'il a fait pas mal de scandales, parce qu'il est parti à pied sous la pluie d'un grand domaine appartenant à un de ses protecteurs pourtant, enfin parce qu'il ne supportait pas au fond d'être traité comme un peu un musicien à la Mozart ou à la Haydn. Il ne portait plus la perruque ni la livrée, donc il disait toujours que des princes, il y en a beaucoup. Il a dit un jour à un de ses amis princes, vous êtes prince par la naissance, par le hasard de votre naissance. Et il y a beaucoup de princes, il n'y a qu'un seul Beethoven. Il avait un orgueil de son talent, justifié d'ailleurs, mais phénoménal. Donc on a une idée du personnage et on sait quand même qu'il faut respecter son écriture parce qu'il a retouché vraiment, il a repris ses partitions de manière très fréquente. Alors on a plus d'indications pour jouer Beethoven. Alors on arrive à Beethoven, c'est une œuvre de la maturité quand même, pas trop tôt. On joue beaucoup de choses avant, on joue les œuvres de Boccherini, les œuvres de Haydn, toutes les choses un peu plus faciles quand même. Et pour avoir ce caractère-là, il faut avoir un peu grandi. Peut-être pas c'est l'adolescence, c'est mieux quand même.
Ouais. Et qu'est-ce qui différencie Beethoven des œuvres de Beethoven de celles d'un autre compositeur? Par exemple, chez Mozart, on pourrait dire que c'est la grâce, chez Haydn, c'est l'humour, chez oui. Schumann, la passion peut-être, et Beethoven, comment vous le qualifieriez?
Le caractère. La force, la résistance au malheur et la volonté d'exister tout de même. Et ça me rappelle ce que disait Rostropovitch. Un jour, je lui ai demandé, Slava, pour toi, quelle est la plus grande qualité chez un être humain en général? Toutes catégories confondues, il a réfléchi un peu, puis il a dit « la conscience ». Alors Beethoven, il avait une conscience terrible, venue d'une famille difficile, un père alcoolique, une mère tuberculeuse, lui-même a été très malade toute sa vie, c'était un milieu très modeste quand même, il a dû exister grâce à ces princes qu'il traitait un peu, il les bousculait un peu, mais bon, il savait ce qu'il faisait quand même, et il a dû s'imposer comme un génie dégagé de la tutelle, au fond, des nobles, parce que je rappelle que Haydn portait livrée, que Mozart avait dû se dégager après un célèbre coup de pied au derrière, parce que Colloredo, l'archevêque, le prince Colloredo l'avait fait foutre dehors, je dis le mot, parce qu'il a été violent comme ça par son régisseur, le comte d'Arco, et il est parti après à Vienne pour vivre dans la solitude, pour gagner sa vie en tant que musicien indépendant. Ça a été le premier, mais après une grosse rupture. Alors que Beethoven est né indépendant, il n'a jamais servi dans une maison, même s'il fréquentait les grandes maisons.
Beethoven qui avait du caractère, mais qui savait aussi écrire avec un peu de légèreté. D'ailleurs, on va le découvrir avec cette Allegro Scherzando, petite plaisanterie musicale. Voici le final du premier concerto pour piano de Beethoven.
Thank you.
Et oui, c'était du live. Il y en a du mordant dans cette interprétation du rondo final du premier concerto pour piano de Beethoven, l'orchestre de chambre de Mito, dirigé par Seiji Ozawa, avec Martha Argerich en soliste. C'est l'interprétation que vous avez choisie pour nous, Frédéric Lodéon. Dites-nous ce qui vous plaît tant alors dans cette interprétation.
La fraîcheur, l'incroyable jeu de Martha. Martha, c'est un prodige du piano, avec sa façon de caractériser chaque thème, avec cette façon de mettre en valeur les rythmes, les modulations, il y a la clarté du jeu, bien sûr, les moyens considérables, elle est douée comme c'est pas permis, heureusement c'est permis quand même pour elle, et puis elle joue avec Seiji Ozawa, qu'on aime tant, et Ozawa qui a été malade, qui a comme métier aujourd'hui de rester vivant, comme il a dit lui-même, et je crois que ça lui a donné beaucoup de bonheur de jouer avec Martha, parce que Martha, elle répand la joie de vivre et la musicalité autour d'elle, c'est un prodige absolu, donc elle aime le concerto en ut, celui-là, depuis sa tendre enfance. Alors, elle ne l'a jamais abandonné.
Ouais. Et vous l'aimez comment, Beethoven, quand il est interprété? Quelle est votre interprétation de cœur? Plutôt romantique, plutôt classique? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous touche sur le plan d'interprétation?
Comme Martha, là, comme elle joue, ça me plaît. Puis, non, tout ce qu'on a entendu, ça me plaît. C'est-à-dire que ça n'est ni entièrement un classique, ni entièrement un romantique. Beethoven, c'est quand même l'enfant du classicisme. Il a été élève de Haydn, même si Haydn a trouvé très vite qu'il en prenait un peu à son aise, qu'il était un peu inquiétant par son côté sauvage. Il lui a dit d'ailleurs, il faut se calmer, en gros, je résume. Mais il a ça en lui, le classicisme. Et puis il a aussi cette espèce de débordement, cette éruption en lui permanente qui fait que ça n'est pas un artiste qui est émanation seule de la société. Il est évidemment compris par une grande partie de la société, mais c'est un artiste qui s'exprime en tant que romantique. C'est-à-dire, il dit « je ». Le classique dit « nous » et le romantique dit « je ». Et ben, il dit les deux.
Un artiste qu'on va continuer à écouter sur France Musique.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Thank you.
Ça rassure quand même. Quelques petites fausses notes, mais ça n'empêche pas d'admirer et d'être impressionné par ce fleuve de lave dans un lit de granit, comme l'a dit Romain Rolland. Donc, le final de la sonate Appassionata de Beethoven par Sviatoslav Richter.
Grand merci, cher Frédéric Lodéon, d'être venu nous voir. On vous retrouve dimanche à 14h sur France
Avec
Musique.
Joie.
Je remercie également grandement Cécile Bonnet-Desclostres, Adelino Mello, Bruno Rioux Maillard et je vous dis à demain 17h.
À réécouter sur francemusique.fr.